Chapitre 34. Cela va de pis en pis. Cependant, Jeannette témoigne à son époux, étonné, une froideur à laquelle il n'est pas accoutumé. Jeannette, cette femme autrefois si sage, si réservée, ne parle plus, n'agit plus qu'en étourdie, qu'en femme du monde, légère, évaporée. Elle a doublé son train, son domestique, elle ne rêve que fêtes, bals, festins, et semble prendre à tâche de contraster avec son époux, d'insulter à sa sombre mélancolie, à ses justes regrets. Elle a réuni à sa table tout ce que Paris offre de jeunes sots, étourdis, c'est un bourdonnement perpétuel de mots diffus qui ne signifient rien. Madame de Briceval paraît vouloir se mettre à la mode, comme ces femmes perdues de réputation, dont on cite tout haut les noms, au spectacle et dans les ruelles. Elle n'est jamais chez elle, à son époux, à son intérieur. Elle va déjeuner chez Madame celle-ci et prendre le thé chez Madame celle-là. Elle gronde, elle tourmente tout le monde, son époux le premier. Briceval entre chez sa femme. « Jeannette, lui dit-il doucement, est-ce encore à vous que je parle, à cette Jeannette si douce, si sage, si raisonnable autrefois ? Comment donc, depuis quelques mois, le séjour de Paris vous a bien gâté. Vous voilà à la mode, et vous me donnez à moi le ridicule de ces sots époux dont on ne cite que les femmes, parce qu'elles sont à tout le monde, excepté à celui qui a des droits sur leur cœur. Pardon de cette comparaison, elle est trop forte sans doute, je vous crois toujours vertueuse, mais l'opinion publique est contre vous. » Et que m'importe l'opinion, monsieur, si je suis toujours digne de mon estime ? Tel est le langage de la vanité, mais les apparences vous accusent. Qu'est-ce que cet essaim d'étourdis et de femmes frivoles que vous rassemblez journellement ici ? Et vous nommez cela vos amis ? Ils ne sont pas les miens, madame, et il fut un temps où nos amis étaient communs à nous deux. Jeannette, expliquez-moi cette conduite singulière qui, sans doute, a un motif secret, car votre caractère n'a pu changer d'une manière aussi tranchante. Mon caractère, monsieur, est toujours le même. Tant que je me suis cru aimé de vous, tant que j'ai eu la faiblesse de penser que j'occupais seul votre cœur, j'ai cru devoir sacrifier mes goûts aux vôtres et régler ma conduite sur la misanthropie de votre caractère. Je me disais, mon époux est ennemi des plaisirs, je lui ferai ce sacrifice, puisque je suis l'unique objet de sa tendre affection. Mes mœurs doivent être pures comme les siennes. Voilà, monsieur, ce qui me faisait agir d'une manière conforme à vos désirs. Rappelez-vous cependant notre premier séjour à Paris. Je me livrais à toutes les fêtes, tous les plaisirs, parce qu'il était dans mon caractère d'aimer les cercles et la dissipation. Cette vie a paru vous déplaire, j'y ai mis un terme. Par complaisance pour vous, je suis retourné dans notre triste province. Vous m'y avez laissé une année entière, livré à l'ennui le plus profond. Vous revenez et je découvre que vous n'avez jamais eu pour moi que des égards, que votre cœur était, est encore à une autre. Je me dis à présent, puisque je me suis trompé, puisque l'on m'a abusé, je n'ai plus rien à ménager. J'aime le plaisir sera mon unique loi. Je ne crains point l'indifférence de mon mari, elle m'est tout acquise. J'y répondrai par la même froideur et je n'enterrerai plus ma jeunesse dans la solitude parce que la solitude lui plaît. Voilà, monsieur, l'explication franche, comme vous le voyez, de ma conduite actuelle. Briceval, interdit, regarde Jeannette et lui dit « Vous avez une bien mauvaise société, Jeannette, et qui, certainement, vous gâte l'esprit, vous donne de mauvais conseils. Pourquoi supposez-vous que je ne vous aime point ? Et ne vous donnais-je point une assez grande preuve d'amitié en restant dans les liens qui, vous savez, ne sont pas ceux qu'avait d'abord choisi mon cœur ? Vous êtes galant, monsieur. Votre franchise excite la mienne. Si je ne vous aimais pas, Jeannette. Mais je fais plus, je vous estime, je vous estimais du moins. Je croyais votre cœur exempt de jalousie. Je lui soupçonnais plus d'attachement pour une amie dont les parents vous ont élevé. Au lieu de vous montrer rivale généreuse, amie sensible, vous ne parlez plus de cette amie qu'avec ironie, vous la fuyez, vous fuyez ses amis, ce monsieur de Verneuil dont je vous ai entendu vanter l'esprit et la probité. Et pour ajouter à l'inconséquence, vous vous jetez dans tous les travers, et tout cela, dites-vous, parce que vous êtes sûre de n'avoir point mon cœur. Jeannette, ce n'est pas là le moyen de le ramener vers vous. J'espère que cet entretien suffira pour vous rendre à votre ancienne raison. » Briceval veut sortir, Jeannette l'arrête. « Monsieur, qu'est-ce ? J'ai besoin d'argent. »« Encore, madame, jamais je ne vous ai vu tant dépenser. » Au surplus, madame, voilà un rouleau, c'est le 6e, notez cela, depuis votre séjour à Paris. Je vous avertis que vous me ruineriez si vous reveniez souvent à la charge. Jouissez, madame, mais vous me permettrez de vous dire un jour plus clairement, si vous continuez, ma façon de penser. » Briceval se retira furieux. Jeannette ne fit aucune attention au sage conseil qu'il venait de lui donner. Elle se para avec la plus grande recherche, puis, accompagnée de Bernard, qui ne la quittait pas, elle fut dans ses cercles où, pour la première fois, elle passa la nuit entière. Qu'on juge de la douleur de son époux en la voyant revenir le lendemain matin, pâle et défaite. Il voulut gronder, elle s'emporta. Le pauvre époux se renferma chez lui, où il fit venir Bernard. « Bernard, mon bon ami, lui dit-il, je te promets le secret, mais dis-moi où ta maîtresse a passé la nuit. »« Monsieur, parle, quel que soit le secret que tu vas me confier, j'aurai assez de force pour l'entendre et de discrétion pour ne pas te mettre en jeu auprès de madame. »«
Monsieur me le promet ? » ?»«
Oui, oui. » »«
C'est que si madame savait,
elle l'ignorera. Dis donc. »
« Eh bien, monsieur, madame a joué. »«
Joué ? » ?»«
Oui, monsieur, et perdu non seulement les 100 louis que monsieur lui a donnés, mais encore 200 autres sur sa parole. »«
300 louis, bon Dieu, et dans quelle infernale maison ?»«
Oh, ce n'est pas la première fois que madame joue et perd. » Je suis sûr qu'elle a déjà laissé chez madame des Étanges, cette prétendue baronne, cette intrigante connue dans Paris pour donner à jouer, plus de 20 000 francs.
Que dis-tu? Et où les aurait-elle pris?
Je l'ignore, monsieur.
Eh bien, voilà un joli petit train de vie.
À peine Bernard est-il sorti de l'appartement de Briceval que celui-ci voit entrer monsieur B, son notaire.
« Pardon, monsieur, si je vous dérange, mais j'ai besoin d'une explication avec vous. Autorisez-vous, madame de Briceval, à venir me demander aussi souvent des acomptes sur les fonds que j'ai à vous ?»«
Comment, monsieur, ma femme va ?»«
Tout à l'heure encore, je viens de lui donner 2 000 écus, mais j'ai son reçu. »«
Est-il possible ?»«
Eh quoi, monsieur B, vous avez l'imprudence !»
« Monsieur, j'ai son reçu, vous dis-je, et madame est assez estimable, sans doute, pour que je lui donne avec confiance.
Et combien a-t-elle déjà touché chez vous ?
Mais sur les 40 000 francs que vous m'avez laissés pour rembourser ce qu'il vous reste à payer sur la maison de la rue du Bac, j'en ai donné à madame environ moitié. »
« Grand Dieu !
C'est, m'a-t-elle dit, pour une acquisition qu'elle fait d'après votre aveu. »
Et, monsieur B, à votre âge, avec tant d'expérience, vous donnez de pareilles sommes à une femme sans la signature de son mari, et vous croyez à ses mensonges? Mais elle me ruinera si elle a affaire à des gens aussi confiants que vous. Je vous défends de lui donner une obole sans ma permission.
Monsieur, si j'avais cru...
Laissez-moi, monsieur, je suis au désespoir.
Le notaire se retire et Briceval, furieux, veut entrer chez sa femme. Elle est sortie, un grand déjeuner l'appelle chez une femme dont le nom seul est un opprobre. Quelle journée passe Briceval ! Il veut voir M. de Verneuil pour implorer le crédit qu'il a sur l'esprit de Jeannette. Briceval va chez cet homme estimable et lui confie tous ses chagrins. M. de Verneuil n'en paraît pas étonné. Il sait tout cela, il en gémit et pense, comme Briceval, que sa femme a l'esprit perdu, le cœur gâté par les mauvais conseils. « Bernard vous a donc tout dit, » ajoute Verneuil. « Vous avez dû être bien surpris d'apprendre que votre femme vous quittant le soir et feignant de rentrer chez elle, sort ensuite de son appartement et va passer toutes les nuits dans ses maisons de jeu où elle a déjà engagé une partie de sa fortune.
« Quoi ? Cette nuit n'est pas la première ?
Vous l'ignoriez ? Indiscret !»
Puisque j'ai eu l'imprudence de vous l'apprendre, vous saurez qu'il y a 2 mois environ, elle m'a emprunté, à moi, 10 000 écus que je destinais à un remboursement et que je me suis fait un plaisir de lui prêter, croyant qu'elle en ferait bon usage. En voilà bien d'un autre, mais si elle emprunte comme cela à tout le monde, mon cher monsieur, je serai ruiné, ruiné sans ressources, avant la fin de l'année. Rassurez-vous, monsieur, ces 30 000 francs me gênent fort peu, heureusement, et j'attendrai aisément votre commodité pour... Ce trait me pénètre de reconnaissance. Ah, monsieur, est-ce là cette Jeannette qui a vécu 18 mois si sage, si réservée avec moi? Sa mère ignore cette conduite odieuse. Elle l'ignore, sa pauvre mère. Elle sait tout, monsieur. Madame d'Héricourt vous plaint et jure de ne jamais revoir sa fille, que la fortune et le séjour de Paris ont rendue indigne d'elle. Ce sont ses expressions. Que je suis malheureux! Une femme entre, c'est Cécile. Elle veut se retirer avec effroi. Restez, mademoiselle, lui dit Briceval. Oh, restez, consolez-moi du moins par l'aspect de vos vertus, des vices honteux dont une épouse coupable me donne le funeste exemple. Monsieur, on calomnie madame de Briceval. Je ne puis croire. À l'évidence, interrompt brusquement monsieur de Verneuil. Avez-vous perdu toute confiance en moi, Cécile, et me croyez-vous capable de répéter des calomnies si je n'avais la certitude de la cruelle vérité? Cécile se tait. Briceval la regarde. Oh, mademoiselle, que je suis à plaindre d'avoir formé un tel lien! Vous auriez répandu le bonheur chez moi. L'enfer est dans ma maison. Briceval verse quelques larmes. Cécile, attendrie, s'empresse de les essuyer. Elle se joint à monsieur de Verneuil, à madame d'Olmont, pour offrir à cet infortuné des consolations qu'il ne peut plus entendre. Enfin, après l'entretien le plus doux, qui lui rappelle ses premiers feux et donne une nouvelle activité à son amour, Briceval sort et rentre chez lui pour y retrouver la solitude et la douleur.